Donc il faut être un peu vigilant en retard de diagnostic de début de travail, à l'évaluation de la douleur. Voilà. Bon, après, on donne les personnes qui sont sous méthadone, sous buprénorphine, on donne les traitements pendant le travail. On ne dit pas, bah non, on ne prend pas les médicaments. Maintenant, on fait boire les femmes pendant le travail, voire manger un peu, on devient humain dans les maternités. Concernant les accords d'experts concernant l'allaitement, c'était la commande aussi, un peu. Donc le tabac, bénéfice-risque, il vaut mieux, quand on fume, il vaut mieux allaiter que pas allaiter. Et si possible, allaiter au moins 6 mois. L'enfant va mieux que si on n'allaite pas, même si on continue à fumer. L'alcool, il faut déconseiller en cas de consommation régulière poursuivie, mais si c'est ponctuel, on peut attendre 2 heures. 2 heures pour un verre, pas pour une bouteille. Mais quand on boit trop, en fait, ça bloque, ça crée des engorgements. Quand on boit trop d'alcool, en fait, ça fait une montée de lait, sauf que le lait ne sort pas. Donc, on prévient les dames. Le cannabis, le CBD, donc, les recommandations, c'est plutôt soutenir l'abstinence. En cas de consommation importante, ce serait plutôt déconseillé, ça passe dans le lait, ça se concentre dans le lait. Après, c'est du bénéfice-risque. Mais on n'a rien en bénéfice-risque. Héroïne, tramadol, codéine, cocaïne, amphétamine, on est plutôt sur déconseiller l'allaitement, donc la coquille. Alors, qu'est-ce qui se passe en postnatal pour les mamans qui ont des troubles de l'usage? La plupart des femmes, elles arrêtent pendant la grossesse, ou elles réduisent beaucoup, mais il y en a beaucoup qui arrêtent complètement. Et c'est des dames, avant la grossesse, qui sont majoritairement pas dans des circuits de soins addictos. Et voire elles ne sont pas du tout en demande de soins pour elles-mêmes. Elles viennent en demande de soins parce qu'elles sont enceintes ou elles arrêtent simplement quand elles sont enceintes. Donc elles sont souvent encore dans le problème, c'est le produit, il n'y a plus de produit, il n'y a plus de problème. Donc à l'accouchement, c'est tout va aller bien après. Mais par contre, l'après-accouchement, elles ont toujours l'impression qu'une fois que le bébé sera là, tout ira bien. Et bien une fois qu'il y a un enfant, c'est là où tout est compliqué, tout est pire. Voilà, on ne dort plus, il y a quelqu'un d'autre à s'occuper, voilà, au niveau émotionnel, ce n'est pas simple, il y a beaucoup de flashbacks quand même de sa vie qui revient, il peut y avoir des accouchements traumatiques aussi qui peuvent compliquer en plus ou réactiver des traumatismes anciens au niveau sexuel par exemple. Et donc là, les dames qui sont dans des troubles de l'usage, souvent elles ne se rendent pas compte qu'elles coulent psychologiquement et qu'elles font une dépression. En fait, le seul truc qui va venir, c'est l'envie de consommer parce que c'est ça qui les a toujours aidées à tenir. Donc il y a des risques de reconso. Et si on n'a pas travaillé tout l'anténatal pour arriver à avoir un suivi et pour qu'elles apprennent à gérer leurs émotions, à parler, à s'exprimer, et à avoir un canevas de suivi, eh ben, ça va passer inaperçu. Il me reste combien de temps ? Hein ? Sur quoi travailler pour aider l'enfant après la naissance ? Alors, le couchage. Alors, quand on a un bébé qui pleure beaucoup, on a très envie de dormir avec lui, parce que c'est le seul moment où il arrête de pleurer. Mais on majore le risque de mort inopinée du nourrisson. Donc, c'est toujours compliqué dans cette période-là. Il faudrait éviter. Donc beaucoup de portage la journée, dort dans son lit et pas faire la sieste avec lui sur le canapé, il n'y a pas pire. Et puis essayer de travailler sur tout ce qui va altérer la préoccupation maternelle. Donc tout le contexte environnemental, donc ce qu'on n'a pas fait pendant la grossesse, c'est difficile à rattraper après. Là, on va essayer d'avoir posé des bases avant. Et puis essayer d'éviter la reprise des consos ou la reprise des consos, au moins qu'il y ait un espace de parole pour pouvoir en parler. Le bébé est là maintenant, quand il y a des conflits, quand il y a de la violence, le bébé est présent et un bébé témoin, il va aussi mal dans sa vie qu'un bébé qui est frappé lui-même. Donc, pas mal de travail autour de la réduction des risques et je trouve que de plus en plus quand même les professionnels de périnat sont sensibles à ça. C'est MIN, c'est mort inopinée du nourrisson. J'ai laissé un gros mot. Pas de co-sleeping. Co-sleeping, c'est d'ailleurs abusif, c'est dormir avec le bébé. Alors, tout ce qui est se laver les mains avant, se laver les mains après, mettre quelque chose sur soi pour pas qu'il y ait de tabac, je jette là. Tout ça, c'est, les mères sont très réceptives à ce... à ces propositions-là. Je pense que j'ai plus le... Oui, j'ai cassé le micro. Ah, vous pourriez réenregistrer là. Parce que là, j'ai fini la situation clinique. Bon, cannabis, donc conseil d'arrêt. Bon, ça, je vous les laisserai de toute façon. Conseil d'arrêt. Et puis, prévenir quand même, attention, tous les ans, il y a des enfants qui arrivent aux urgences qui ont avalé des boulettes de résine de cannabis. Tous les ans. C'est grave pour un enfant. Donc il faut prévenir. Dès que l'enfant marche à quatre pattes, sous la table basse, il y a des boulettes. Sur l'alcool, donc on va travailler sur éviter l'ivresse, sur comment faire pour s'organiser dans le couple, pour faire attention à l'enfant. Alors pour les gens qui font la fête, il y en a un qui garde l'enfant, il y a l'autre qui part faire la fête. Donc on ne va pas tous les deux ensemble avec le bébé en couffin. Organiser le suivi du développement de l'enfant s'il y a des consommations pendant la grossesse. Et puis la plupart des dames qui arrêtent pendant la grossesse, l'allaitement, ça poursuit l'abstinence et ça les aide et elles sont tout à fait conscientes de ça. Et donc ce qu'on va travailler, c'est l'arrêt de l'allaitement. C'est qu'est-ce qui va se passer à l'arrêt de l'allaitement. Les opioïdes, les enfants, ils ont un plus de morphine opioïde du nourrisson, mais donc on va faire beaucoup plus de portage de peau à peau dans les premiers mois de l'enfant, mais on essaye de faire ça pour tous les enfants maintenant. Et puis il y a beaucoup de suralimentation, c'est des enfants qui sont très hyperphagiques. Quand il y a les enfants en syndrome de sevrage, ils sont très hyperphagiques, ils boivent beaucoup, des grosses quantités, ils dépensent beaucoup d'énergie. On a maintenant moins de 10 enfants qu'on a besoin de traiter, mais on travaille sur du pot à pot pendant le séjour en mater. On peut faire 6-8 heures de pot à pot par jour en alternance avec le père et la mère. Et là, on est à moins de 10% d'enfants qui ont besoin d'être traités avec des enfants qui sont beaucoup plus sécures. Et du coup, un apprentissage aussi de ce qui va se passer après et de comment sécuriser l'enfant. Mais par contre, ils restent hyperphagiques. Et donc, à la sortie de la maternité, le risque, c'est qu'ils mangent trop. Et aussi qu'on leur donne à manger dès qu'ils pleurent. Parce que la gestion des pleurs pour quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, c'est difficile. Et c'est là-dessus qu'il va falloir les accompagner. C'est dans la gestion des pleurs et dans la non-réponse alimentaire systématique à toute pleure de l'enfant. Parce qu'on a beaucoup plus d'obésité chez les enfants quand il y a eu des problématiques, notamment d'addiction aux opiacés pendant la grossesse. Et la cocaïne, ça rend un peu, ça pas calme aux pleurs du bébé, on va dire. Donc quand même, il faut faire attention au risque de bébé secoué. Ça vous dit quelque chose, le bébé secoué, hein? C'est un bébé qui pleure beaucoup, on a toujours envie à un moment de lui dire arrête de pleurer. Mais le arrête de pleurer en le jetant dans le lit, ça marche pas. Ça cogne le cerveau contre la boîte crânienne. Donc on peut avoir des pensées, mais il faut arriver à poser le bébé et aller faire le tour du quartier. Ça, c'est pour tout le monde. Alors, je suis finie. Je suis sur... donc ça, ce sont les fiches techniques et les référentiels du réseau périnatal. Si ça vous intéresse, après, vous pouvez s'inscrire au réseau périnatal. Plus il y a de profils du champ social, on a très peu de professionnels du champ social qui sont inscrits sur l'accès au site. Il y a des webinaires sur le qu'on fait au réseau. Et qui sont sur YouTube, il y a une chaîne YouTube, et il y a notamment un sur les violences conjugales en périnatalité, et il y en a un sur les troubles du spectre de la causation fœtale. C'est que des webinaires qui durent une heure, avec un témoignage d'une mère. Et puis le DU, périnatalité et addiction, si vous voulez aller plus loin, Paris-Montpellier. Alors, je vous ai mis une petite diapo sur... Alors, moi, je suis coordination grossesse et addiction. Donc, ce qui a marqué en rouge, rattaché, moi, à l'EBSA et ma collègue à la mater, donc Amélia, Sergi et moi, Je vous ai mis le numéro de téléphone. On a un répondeur et on peut laisser un message. Ensuite, s'il n'y a pas d'addiction, il y a aussi des possibilités. Donc, on va pas, nous, on ne reçoit pas tout le monde. Donc, en fait, il y a une coordination de grossesse et vulnérabilité avec un mail générique. Et on se répartit les situations, les patientes en fonction de ce qui est demandé. Et on rappelle les professionnels pour explorer un peu les choses avant. Et il y a une passe obstétrique. Alors, c'est une passe gynéco-obstétrique. Sauf que là, on a été débordé, on a une saturation côté gynéco. Et le premier rendez-vous, donc c'est pour les personnes qui n'ont pas de droit. Hein, qui n'ont pas de droit, donc on fait tout. La consulte, les examens, et les bilans s'en vient, on donne les médicaments. Donc le premier rendez-vous, c'est à coupler à une assistante sociale et une sage-femme. Il y en a deux actuellement, c'est Laure Gomestin ou Audrey Bertin. Et les assistantes sociales, c'est une des trois AS de la mater. Ça dépend des fois. À l'UTTD, le vendredi pour l'instant, on fait la consultation santé de la femme, qui est accessible aux personnes donc, qui sont en situation d'addiction et qui ont besoin, qui n'ont pas de suivi en ville. Hein, on n'est pas là pour remplacer la ville générale. Et puis, je vous ai mis quand même la clinique Saint-Roch. Parce qu'il y a une sage-femme qui est référente pour les situations de vulnérabilité à Saint-Roch, qui s'appelle Adélaïde Gori, avec un mail pour la contacter. Je n'ai pas mis Clémentville, parce que la sage-femme de coordination de Clémentville prend sa retraite à la fin du mois, et pour l'instant, il n'y a personne qui a postulé pour la remplacer. Donc, si vous connaissez quelqu'un, donc je ne l'ai pas mis, parce que là, il va y avoir un trou. Voilà. Merci de votre attention.